Bonjour et bienvenue sur ce podcast de la série Histoire de dons, série produite par la Conférence des évêques de France. Nous partons à la rencontre de personnes qui donnent chaque jour leur vie au service de la mission de l'Église. Des témoignages sur le sens spirituel du don, des expériences personnelles qui nous parlent et nous éclairent, un appel à entrer nous aussi dans une dynamique du don. Aujourd'hui, rencontre avec le père Roger Hébert, prêtre au service des foyers de charité et en particulier de celui de Tressin en Bretagne. Bonjour père.
Bonjour François.
Et merci d'apporter votre témoignage à notre micro. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie le don pour vous? Quel est le sens spirituel que vous lui conférez?
Pour en parler, j'aimerais revenir à cette expérience qu'on a tous faite. Vous devez vous rappeler vous-même de ce moment-là. La première fête des mères quand vous étiez à l'école, vous aviez préparé un cadeau pour votre maman, le fameux collier de nouilles ou je ne sais quoi. Et 15 jours avant, vous êtes arrivé à la maison en disant « Maman, c'est un secret, j'ai pas le droit de te le dire, mais je t'ai préparé un cadeau ». Parce que peut-être que c'était la première fois, la première expérience du don que vous aviez et que j'ai eu moi-même. Après avoir tant reçu dans notre toute petite enfance, il y a un moment où enfin on pouvait donner. Et c'était une telle joie qu'on ne pouvait pas la garder. « Maman, c'est un secret, mais je t'ai fait un cadeau ». Je crois que, sans le savoir, à ce moment-là, finalement, on mettait en œuvre cette belle parole qu'on a dans les Actes des Apôtres qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». En théorie, ça paraît compliqué à comprendre cette parole, parce qu'on aime recevoir, mais quand on se réfère à ce genre de situation, on comprend très bien que c'est vrai. Il y a une telle joie à donner, c'est la joie des parents qui donnent la vie, c'est la joie de toute personne qui peut donner un peu d'amitié dans un moment difficile. Le don, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis, si je pouvais me permettre, finalement, on pourrait dire que toute notre vie est comme une préparation à la mort. Et j'aime bien cette parole de Marie de Henzel, cette psychologue, qui est un peu spécialiste de l'accompagnement, et qui dit « La mort ne nous prendra que ce que nous n'aurons pas su donner. Alors si on veut jouer un petit tour à la mort, il faut tout au long de notre vie nous y préparer en donnant. Et quand on aura tout donné, il n'y aura plus rien à prendre. Et là, on pourra partir tranquillement, passer sans difficulté par la fameuse porte étroite dont parle l'Évangile. On a tout à gagner en donnant. »
Merci pour cette vision du don comme source de joie et préparation au don final. Pourriez-vous maintenant nous confier un exemple de don qui vous a particulièrement édifié, que ce soit dans l'histoire, dans la vie d'un saint ou même dans votre famille?
Alors j'aime particulièrement l'histoire qui est relatée par Victor Hugo dans Les Misérables. On se rappelle tous de Jean Valjean, ce forçat qui a été libéré et qui par la suite deviendra le maire d'une commune dans laquelle il va faire beaucoup de bien. Mais comment il en est arrivé à faire beaucoup de bien? En sortant du bagne, il ne trouvait aucune place d'hébergement, il était bien libéré, il avait payé, mais personne ne voulait de lui. Et c'est alors que l'évêque de Digne, de l'époque, va l'accueillir chez lui, le faire coucher dans un lit confortable, en lui ayant préparé un très bon repas le soir. Sa gouvernante n'était pas très contente d'avoir un client comme ça dans la maison. Et puis dans la nuit, hélas, les vieux démons sont revenus. Et donc Jean Valjean s'est levé, il a récupéré toute l'argenterie de l'évêque et il est parti. Au petit matin, il n'était plus là. Dans la matinée, la police le ramène chez l'évêque parce que l'argenterie était estampillée aux armes de l'évêque, donc on n'a eu aucune difficulté à reconnaître qu'il avait volé l'évêque. Et quand on le présente à l'évêque, en déballant toute cette argenterie volée, l'évêque lui dit « Mon ami, je vous avais donné aussi les chandeliers en argent, pourquoi ne les avez-vous pas pris avec l'argenterie ?» Évidemment, l'évêque de Digne a sauvé Jean Valjean. Mais ce qui est très beau, c'est ce que va dire l'évêque après, en lui disant « Jean Valjean, maintenant, tu n'appartiens plus aux ténèbres, tu appartiens à la lumière. » Et c'est cette parole et c'est cet acte de l'évêque de Digne qui va complètement transformer sa vie. Et à partir de là, il ne pensera plus jamais à voler, mais il va se donner totalement au service de ceux qui lui seront confiés dans la commune dont il sera maire. Une très, très belle histoire.
Le don vu comme source de transformation.
Oui.
Pourriez-vous maintenant nous partager une expérience personnelle de don?
J'ai eu la chance de faire un voyage en Afrique du Sud. C'était en 1990, donc quelques semaines après la libération de Nelson Mandela. Mais évidemment, la situation des Noirs était encore tragique. Ils avaient été réduits à des sous-hommes par l'apartheid. Et on a pu aller coucher dans un township, ces ghettos qui avaient été construits, mais qui étaient la proie de violences terribles, parce que la pauvreté engendre souvent la violence. Je me rappelle que j'ai couché dans une petite maison. Il y avait deux chambres, une chambre pour les enfants, une chambre pour les parents, et les parents m'ont laissé leur chambre. La maman a dormi sur un fauteuil et le papa, lui, a veillé toute la nuit au pas de la porte avec son fusil pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Ils étaient tellement heureux d'accueillir un prêtre chez eux, et en plus un prêtre blanc, alors que jusque-là, il n'avait été que haï, sous-estimé par les blancs. Et au petit matin, cet homme m'a promené dans son quartier. Il était tellement heureux de montrer ce prêtre qui avait logé chez lui. Et je me rappelle qu'on s'est arrêté devant une maison et il a appelé quelqu'un, un vieux, très vieux, est sorti. Et j'ai compris, parce que je parle pas très bien anglais, j'ai compris que cet homme avait été un résistant et qu'il avait passé beaucoup d'années en prison. Et il essayait de me partager son expérience que je ne comprenais pas, mais dans son regard, j'arrivais à lire un petit peu tout ce qu'il avait vécu. Et il est allé chez lui. Il m'a ramené un cadre sur lequel il y avait une parole de Saint Paul qui était brodée. Et j'ai reconnu que c'était une parole de Saint Paul parce qu'il y avait une référence, Philippiens 4, 13. Alors ça tombait bien, j'ai souvent un petit évangile dans ma poche. Je suis allé voir un Nouveau Testament, je veux dire, et je suis allé voir quelle était cette parole. Et cette parole, elle m'a bouleversé. C'est Paul qui dit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Cet homme, il voulait me dire que ce qu'il avait tenu dans son combat, c'était la foi, c'était son lien au Christ. « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Et il m'a offert ce cadre. Je l'ai accueilli comme un cadeau d'une valeur extraordinaire. Quelques semaines après mon retour au presbytère, un homme complètement désespéré est venu me voir. Il voulait se suicider et moi, je n'avais pas grand-chose à lui dire parce que c'est tellement difficile. Mais je me suis rappelé le cadre et l'histoire de cet homme. Je lui ai raconté l'histoire de cet homme et je lui ai donné le cadre. Et je lui ai dit, voilà, cette parole, elle a soutenu cet homme dans son combat. Vous avez un grand combat à mener, que cette parole vous soutienne. Je vous demande seulement de me faire cette promesse. Quand vous irez mieux, donnez ce cadre à quelqu'un qui a besoin d'être soutenu par cette parole aussi. Je ne sais pas où est le cadre. J'espère qu'il poursuit son œuvre actuellement. Et j'ai été vraiment tellement touché par ce don qui m'a été fait que je ne pouvais pas faire autrement que de donner à mon tour pour soutenir la vie.
Une belle histoire de chaîne du don qui, quelque part, aide à couper ses chaînes.
Oui.
Enfin, auriez-vous un message à envoyer aux donateurs au denier de l'Église qui, par leur contribution, vous permettent de disposer des moyens de vivre et d'agir?
Aujourd'hui, moi, j'ai un ministère qui est plus centré sur l'accompagnement des personnes qui viennent suivre des retraites spirituelles dans nos maisons. Et je vois que même les personnes qui apparemment paraissent bien, bien installées dans la vie, en fait, tout le monde traverse des épreuves. Tout le monde a vécu des difficultés dans sa vie, des blessures d'enfance, des choses difficiles à porter. Et je me rends compte aujourd'hui combien l'écoute... Alors, bien sûr, il y a moi, mais il y a surtout ce ministère qui m'a été confié et qui me permet de donner la compassion du Seigneur à ces personnes qui en ont tant besoin et parfois la guérison de leur âme pour qu'elles puissent tenir debout, qu'elles soient déliées de ce qui les empêche véritablement de vivre. J'ai reçu récemment un témoignage d'une femme de plus de 90 ans que j'ai accompagnée comme cela dans une retraite et qui m'a dit « Vous voyez, mon père, je n'avais qu'un seul miroir dans tout mon appartement, c'était celui de la salle de bain, et je m'arrangeais toujours pour coller des choses sur ce miroir parce que je ne voulais pas me voir, tellement je me trouvais laide. Suite à la retraite, j'ai tout enlevé, ce qui était collé sur ce miroir, et j'espère que ce n'est pas de l'orgueil, mais maintenant je me regarde, je me souris, et parfois même je me trouve belle. » Mon Dieu, que ce témoignage m'a touché. Je me suis dit, si ma vie donnée, elle permet cela, merci Seigneur. Alors merci à ceux qui nous aident à nous donner pour remettre les autres debout.
Merci Père de ce témoignage. Je rappelle que vous êtes prêtre au service des foyers de charité et en particulier de celui de Tressin en Bretagne. Merci beaucoup de votre participation à cette série de podcasts Histoire de dons, produite par la Conférence des évêques de France. Merci Père.
Merci à vous aussi.